Alors bonjour à toutes et à tous, je me présente rapidement, donc je m'appelle Émilie Dubois, je suis maître de conférence au département des sciences de l'éducation à l'université de Rouen.
Et moi je suis Gabrielle Allers, doctorante en sciences de l'éducation et à l'université de Rouen aussi. Donc on va commencer pour présenter cette petite table ronde, on va commencer la table ronde B. Donc, qui aborde les sujets école-famille. Et donc, si on regarde un peu l'histoire de l'éducation publique en France, l'école s'est toujours trouvée en décalage par rapport aux familles. Et l'école, comme institution qui prend en charge l'instruction des élèves, devait laisser en dehors les familles pour avoir une uniformisation du territoire français. Et donc pour aussi dans le but de cette obligation scolaire. Donc à travers l'évolution de l'école dans les différents pays occidentaux, s'est créée une forme scolaire distante à la forme sociale des élèves, un peu ce qu'on a vu ce matin. Et donc c'est-à-dire dans l'objectif d'apprendre aux élèves, on crée un espace symbolique, mais parfois aussi bien concret, qui s'écarte des autres rapports sociaux. Et donc aujourd'hui, différents auteurs s'intéressent à ces décalages entre école et famille. On a Martin Millet et Daniel Thin qui parlent sur les familles des élèves en rupture avec l'école. On a François Doubé qui nous parle sur les malentendus entre l'école-famille. Kerubi qui s'intéresse aux pratiques enseignantes qui tentent de rapprocher les parents à l'école. On a aussi les travaux de Marini et Perronneau qui se questionnent sur si la famille peut devenir un partenaire, dans quelles conditions la famille peut devenir partenaire. Mais d'autre part, on a aussi l'éducation nationale qui aujourd'hui s'intéresse justement à ce travail de coopération entre école-famille et qui est dans le but de faire une coopération active entre école-famille qui vise une coéducation. Donc, quelle coopération entre famille et école? Quelle continuité éducative pour une coéducation?
Je vais vous présenter donc rapidement l'organisation de la table ronde. Donc, le timing, c'est à peu près une heure, donc 45 minutes de présentation des différents intervenants que l'on a autour de la table et puis 15 minutes d'échange pour voir un peu vos réactions par rapport à leur présentation. Merci. Donc, je vais vous présenter rapidement les intervenants. Alors, l'idée, comme mentionné ce matin lors de l'ouverture du colloque, est de donner de la parole, donner de la place, donner la parole aux témoignages, finalement, des professionnels qui peuvent être mis en débat, peuvent être mis en miroir, pour nous aider à mieux saisir quelles sont les problématiques soulevées en appréhendant des contextes différents, chacun avec son contexte et des points de vue différents. Alors, le titre de la table ronde, la continuité éducative, deux points, quel lien entre école et famille, et puis donc trois temps forts, comme finalement trois questions que vous voyez derrière moi, que je reprendrai, que je reposerai aux différents intervenants, pour avoir la possibilité que chacun s'exprime. Alors, je présente les intervenants autour de nous, donc je commence par Nathalie Koenig et Dorothée Gouin, que je prononce bien. Vous êtes tous les deux parents d'élèves de l'association GPS des 10 à Dieppe, donc Haute-Normandie, groupe de parole et de soutien pour les parents d'enfants 10, donc de Dieppe et de son agglomération. Nous avons ensuite Cédric Forcadel. Alors Cédric est professeur des écoles, président du groupe départemental 76 de l'ICEM, Pédagogie Freinet. Voilà. Et nous avons également la chance d'avoir deux collègues CPE, Stéphanie Génaud-Lecage, Thomas Dequin, également formateur à l'ESPE de Rouen. Alors, la première question qu'on pourrait vous poser, donc pour lancer les échanges, qu'est-ce que la continuité éducative pour vous, en fonction de vos différents contextes, à savoir comment finalement vous pouvez la comprendre? Et on peut commencer par Cédric.
C'est ça, on est en plus jeune, c'est une forme de bizutage un petit peu, c'est intéressant, je vois que ça commence de manière intéressante. Donc, c'est vrai que cette question-là de qu'est-ce que c'est que la continuité éducative, c'est une question qui interroge. Voilà, la première réflexion sans doute, c'est si on parle de continuité, nécessairement ça veut dire qu'on parle de rupture. J'ai envie de renvoyer ça en miroir. Pour qu'il y ait une continuité, il faut qu'il y ait bien deux champs distincts qui existent, deux entités différentes. Et donc la question, c'est finalement, avant même de définir cette continuité, définir ces deux champs distincts. Comment est-ce qu'on peut caractériser qui ils sont et puis quelles sont finalement leurs formes spécifiques à chacun. Et donc, avant de travailler ce qui unit la continuité, il faut d'abord identifier ce qui sépare la rupture. Alors plutôt que d'une rupture nette, on pourrait d'ailleurs parler d'une forme de plutôt d'une espèce d'axe de continuum entre sur un pôle on aurait quelque chose qui serait la forme de connivence extrême culturelle, sociale entre l'école et les familles, et puis vraiment de l'autre côté les malentendus scolaires, je parlais de François Dubé tout à l'heure, les plus profonds. Et finalement, cette continuité, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à circuler sur cet axe là sachant que de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a une forme de continuité qui existe. Il y a forcément des liens entre les deux champs qui existent, nécessairement. Il y a des médias qu'on peut avoir prévus et d'autres médias, c'est-à-dire qui permettent la circulation d'informations entre ces deux champs, qu'on n'aura pas prévus. Donc moi, je pense toujours qu'il vaut mieux penser les choses que les subir. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut identifier les différents médias qui permettent de faire circuler les informations entre les deux champs qu'on pourrait identifier, famille et école. J'en profite pour faire une petite parenthèse, mais très rapide, pour pas empiéter sur le temps de parole. On parle souvent du désengagement des familles ou d'une forme de désintérêt des familles qui pourrait expliquer finalement ou qui rendrait responsable ces mêmes familles d'une forme d'échec scolaire. Donc moi, mon champ d'expertise, c'est directement l'école, hein, je suis enseignant. Je n'ai jamais vu en 17 ans de carrière des familles qui se désintéressaient de leurs enfants. Jamais. Jamais. Alors, j'ai peut-être une mauvaise vue, je ne sais pas, mais moi, je n'en ai jamais vu. J'ai pu identifier des familles, alors le mot est peut-être un petit peu compliqué, qui avaient du mal à savoir faire par rapport aux attentes de l'école. Mais ce n'est absolument pas du désintérêt. On avait une discussion ce midi sur la question des devoirs à l'école, par exemple, qui est vraiment un objet extrêmement intéressant si on veut étudier cette continuité scolaire. Toutes les familles s'intéressent à ce qui se passe à l'école. Toutes les familles ont envie, a priori, que leur enfant réussisse. La question qui peut se poser, c'est est-ce que l'école peut donner des codes d'accès à ces familles-là pour comprendre ce qui s'y vit ? Donc finalement, c'est ça. C'est comment est-ce que l'école peut, dans un premier temps au moins, rendre l'invisible visible, partager ce qui se joue, ce qui se vit à l'intérieur de l'école, et comment est-ce qu'on peut permettre d'avoir une véritable lecture de à la fois ce qui est attendu et ce qui est fait. On a souvent des malentendus sur la façon dont les choses peuvent se jouer. Je pense que ça, voilà, c'est... Moi, quand je pense à la continuité, vraiment, c'est cette réflexion sur comment permettre de rendre l'invisible visible et de créer des espaces, des temps et des objets, des médias de lien entre les deux entités qu'on aurait pu définir, école d'un côté et puis famille de l'autre.
Moi, je vais répondre, compléter ta réponse. Donc, en tant que CPE, moi, je suis CPE en lycée et ma collègue en collège, donc on aura souvent complément de parole à deux. Mais donc, tu parlais beaucoup des médias. Effectivement, moi, je pense que en tant que CPE, justement, je me vis dans mon métier comme ce média très souvent, en fait. Je joue ce rôle de média entre les parents et l'école, leurs incompréhensions, leurs craintes, leurs attentes aussi aux parents, et puis la difficulté qu'ils peuvent avoir à rentrer en contact avec l'école, et plus précisément les enseignants. Et c'est vrai que l'avantage du secondaire, peut-être des fois, c'est d'avoir ce métier-là de CPE qui joue le rôle de tiers médiateur, hein, vraiment. Donc je pense, moi aussi, sur cette question de la continuité éducative, il y a deux aspects. Il y a ce que tu disais et que je complète effectivement sur la notion de média. Et puis après aussi, moi j'ai toujours en tête, enfin je vois toujours cette question de la continuité éducative comme je fais une référence à nos missions fondamentales. On est là pour compléter l'action des familles, hein, c'est stipulé comme tel dans le code de l'éducation, et surtout pas pour se substituer ou être à la place. Ou voilà, il y a vraiment ce mot de compléter. Et je pense que voilà, cette question de continuité, c'est à la fois permettre, grâce à ce média, la liaison, ce qui unit, hein, tu disais, et puis c'est aussi nous, professionnels de l'éducation, comment compléter l'action des familles, c'est-à-dire presque faire une sorte de diagnostic de ce qui est fourni à la maison par les parents, et puis venir remplir là où il faut remplir, là où il y a des choses à ajouter, mais surtout pas avoir la prétention d'être à la place ou mieux savoir que. Et c'est vrai que beaucoup des craintes des parents, hein, c'est la crainte du jugement ou de se voir déposséder de leur action, quoi. Donc, après, toi, en collège...
Alors, effectivement, hein, moi, je pense que ça renvoie largement à la posture aussi, hein, la posture professionnelle. Et c'est vrai que on a, nous, on sent bien, hein, des familles qui répondent plus ou moins facilement. Et je pense que notre posture induit beaucoup de choses. Et moi, je suis très attachée notamment aux valeurs, à l'authenticité, à la simplicité aussi, hein, des relations avec les familles. Si on veut créer de l'alliance, hein, l'alliance éducative, je pense, hein, justement, pour qu'il y ait cette continuité et puis que ces malentendus puissent s'atténuer, il est essentiel qu'il y ait de l'humanité aussi, hein, dans les relations. Et je pense que trop souvent, hein, ça a été un petit peu l'introduction, on s'est aussi positionné, nous, en experts, alors que finalement, ce sont quand même bien les parents qui connaissent en premier lieu leurs enfants. Et je pense que nous devons leur faire confiance et que cette confiance, elle doit être sans faille. Hein. Je te rejoins, Cédric. On a des familles qui sont en difficulté par rapport à des problématiques scolaires ou même adolescentes, hein, puisque nous, on a des publics plutôt adolescents. Mais à nous de les accompagner sans jugement et de faire en sorte que, main dans la main, on avance. Voilà, et c'est une alliance qui se construit, on le verra après, hein, mais moi je trouve beaucoup dans la communication informelle, dans une présence quotidienne, etc., avant même d'envisager de mettre des choses plus construites en place. Hein, je crois que c'est comment d'abord on les reçoit. Voilà.
Donc nous allons donner l'éclairage plus par rapport aux troubles des apprentissages, puisque c'est la cause de notre association. Donc quand on a parlé de continuité éducative, les premiers mots qui nous sont venus à l'esprit, ce sont le dialogue et l'écoute, la cohérence et la confiance. Pour ce qui est du dialogue et de l'écoute, particulièrement dans le cas des troubles des apprentissages, les difficultés sont telles qu'il est indispensable qu'il y ait un dialogue direct et constructif, que les parents puissent rencontrer les enseignants pour expliquer les difficultés, mais aussi les points forts de l'enfant, sans passer pour des parents envahissants. Les parents, en général, connaissent leur enfant, ses difficultés, ils voient comment il réagit lors des devoirs à la maison, ils ont vraiment le nez dessus, j'ai envie de dire. Donc ils tentent des expériences pour contourner les difficultés. Ils se forment aussi sur les troubles, donc toutes ces informations sont précieuses pour l'enseignant et c'est dommage qu'il s'en prive. De même, le parent, pour bien épauler son enfant, il doit s'intéresser à ce qui est fait à l'école. Les troubles 10 ne sont pas toujours connus des enseignants. Parfois, ce sont les parents qui sont dans le déni. Donc, il faut qu'il y ait un partage maximal d'informations pour le bien-être de l'enfant, que la communication soit spontanée, comme tu le disais, Stéphanie, fluide, qu'il y ait une certaine transparence aussi de part et d'autre. Et cela, bien au-delà des simples rencontres parents-professeurs. Peut-être qu'on en reparlera, qui n'est pas forcément le moment le plus adapté quand on a une barque un peu chargée. Nous recevons souvent des parents qui sont en difficulté avec l'environnement scolaire. Pour eux, ils nous parlent souvent de parcours du combattant pour faire comprendre les difficultés, pour faire respecter les aménagements. Et plus d'informations, plus de formations sur les troubles des apprentissages, ça devrait permettre aussi d'établir un dialogue plus pertinent. Pour ce qui est de la cohérence, l'enfant il a besoin de deux points d'appui, l'école et la famille. Il ne doit pas sentir un fossé entre les deux champs, sinon il va se sentir bancal. Et donc l'idée, c'est de voir l'enfant dans sa globalité, non pas seulement uniquement dans le champ scolaire ou alors uniquement dans le champ familial. Là encore, si on parle du champ du handicap, il faut que la cohérence, elle touche la prise en charge à la fois à la maison et à l'école. Que, par exemple, les aménagements ne soient pas remis en cause d'un côté, par exemple un ordinateur qui a été préconisé par l'ergothérapeute, dont l'enseignant ne veut pas, parfois pour des bonnes raisons, ou des raisons pratiques, ou alors le parent qui remet en cause la méthode ou l'approche du professeur. Puis le dernier point, c'est la confiance. Et c'est pas le moindre, la crainte du jugement de part et d'autre fait qu'on se prive d'un soutien réciproque. Il faut vraiment sortir de la défiance et des préjugés. Lorsqu'un parent explique les difficultés ou transmet une proposition d'aménagement qui a fonctionné à la maison, donc c'est un dialogue, enfin une proposition vraiment pratique, il n'est pas du tout en train de remettre en cause la pratique de l'enseignant, il partage cette solution pratique. Et voilà, une fois encore, c'est dommage de s'en priver. Je prends par exemple le cas du PAP, le plan d'accompagnement personnalisé. Typiquement, c'est un outil très pertinent de la continuité éducative puisqu'il fait le lien entre les parents, les professionnels de santé qui vont préconiser des aménagements et puis les enseignants qui proposent des adaptations pédagogiques. Et en plus, c'est une continuité dans le temps puisqu'il il vit d'année en année et il est transmis aux collègues suivants. Donc je cite le cas d'une enseignante qui était réticente à la mise en place d'un PAP parce qu'elle le recevait un petit peu comme un flicage, entre guillemets, alors que cette enseignante appliquait remarquablement bien les aménagements. Donc c'est quand même dommage de percevoir cet outil comme cela. Nous, on le vit vraiment au quotidien. La continuité éducative, c'est important pour tous les enfants, mais alors pour un enfant 10, c'est indispensable. C'est impossible de réussir sans. L'expérience montre que quand il y a du dialogue, de la confiance, de la cohérence, ça fonctionne. Tout le monde y gagne, l'enfant avant tout, l'enseignant dans sa pratique et les parents qui ont le sentiment que leur enfant est compris. Et voilà, c'est positif pour tous.
Merci. Alors juste peut-être pour repérer les mots qui ont pu émerger, on entend média, alliance, tiers médiateur, on entend le mot humanité dans la relation qui... Voilà. Laisse aussi voir quelles sont vos différentes approches, je pense. Dialogue, écoute, mais également crainte du jugement et puis idée de rupture. Donc derrière notre continuité éducative, on voit bien qu'on a des concepts quand même qui sont à géométrie un peu variable aussi, hein, et qu'il est difficile de circonscrire finalement ce concept tant... les réalités et les contextes derrière font une pluralité de ce que peut être la continuité, finalement. Merci à chacun.
Donc, pour continuer à approfondir ces réflexions-là, quelle est la place de l'école dans la famille et quelle est la place de la famille à l'école aujourd'hui? Donc, on va laisser la parole à Nathalie.
Dorothée, pardon, excusez-moi. Donc, je vais commencer par la place de l'école dans la famille. Donc, aujourd'hui, on sait que l'enjeu de l'école est primordial et la pression de la réussite scolaire pèse sur toutes les familles, même les plus éloignées du système. Donc, la place de l'école dans la famille, dans le champ du handicap, dans ce qui nous concerne, est énorme. L'impact se ressent sur toute la famille, aussi bien pour les parents que sur la fratrie. C'est un sujet qui peut devenir envahissant et vite polluer tout l'espace familial et la relation avec l'enfant. Les parents doivent faire attention à garder des relations avec l'enfant en dehors du contexte scolaire. Ils doivent également ne pas négliger les frères et les sœurs en se concentrant uniquement sur l'enfant qui est en situation de handicap. Par exemple, parlons des devoirs à la maison. On en parlait tout à l'heure. Dans tous les témoignages de parents, des parents d'enfants 10, hein, je précise, les devoirs à la maison sont souvent un moment conflictuel. Pénible, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Et les enfants qui souffrent rapidement en fait, de l'omniprésence de sa vie scolaire dans ses relations avec ses parents. Les parents d'enfants 10 sont obligés d'être un soutien scolaire pour leurs enfants et ils n'ont pas le choix. Mais s'ils y consacrent tout leur temps, l'enfant peut rentrer en opposition et faire un rejet de ce travail scolaire justement. Les parents doivent aussi rester prudents et ne pas se substituer à l'enseignant en sapant son travail et sa pédagogie. Ils doivent être solidaires avec les méthodes de l'enseignant établir un dialogue indispensable et constructif avec ce dernier. Pour la place de la famille à l'école, alors d'un côté, l'école offre des opportunités aux parents de s'impliquer à l'école. Moi, on pensait aux sorties scolaires, aux rencontres parents-professeurs. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que ce sont souvent les mêmes parents qui répondent présents. Les autres ayant des contraintes professionnelles ou, soyons honnêtes, n'ont pas la volonté de s'impliquer parfois. Et d'un autre côté, l'école peut se montrer aussi difficile d'accès. Un exemple, c'est sur le plan géographique. En maternelle, on rentre dans l'école avec l'enfant, les parents rentrent et rencontrent l'enseignant. Et en élémentaire, on reste à la grille, l'enfant rentre et les parents sont un peu plus éloignés. Au collège, eh bien, on reste derrière la grille et on aperçoit les enseignants. Donc au fur et à mesure, il y a cet éloignement géographique qui se fait. Voilà. Donc il y a bien d'autres formes de communication à ce moment-là, comme le carnet de correspondance ou un site internet, celui de l'établissement. Mais ces échanges ne seront jamais aussi efficaces qu'un échange direct. On constate aussi une implication moindre des parents au fur et à mesure que l'enfant grandit. Je ne parle pas de désengagement. Certains parents peuvent penser que leur enfant gagne en autonomie. Ils n'ont plus besoin d'eux. Bon, alors c'est vrai sur certains points, mais c'est justement lorsqu'ils arrivent au collège, puis au lycée, que les enjeux sont les plus importants. Et c'est à ce moment-là que les parents devraient renforcer leur implication dans la scolarité de leur enfant et être plus présents à l'école. Dans le cadre des troubles des apprentissages, l'implication parentale dans la scolarité de l'enfant est essentielle. Il est très important que les parents se sentent les bienvenus à l'école, justement, en dehors des temps institués. Et on dit que les parents sont les experts de leurs enfants, donc je rebondis sur ce qu'a dit Nathalie. Et ce serait dommage de se priver de cet éclairage. Or, les enseignants peuvent craindre, et c'est un peu redondant, mais c'est vrai, d'être jugés et mis en cause dans leur pratique pédagogique lorsque les parents transmettent des informations ayant trait aux adaptations. Les parents sont trop souvent perçus comme des enquiquineurs, alors qu'ils devraient au contraire être un point d'appui pour les enseignants. À l'inverse, on voit aussi le cas d'enseignants complètement démunis face à des parents qui ne parviennent pas à amener dans l'enceinte de l'établissement, malgré de nombreuses formes de sollicitations, comme des cafés parents ou des demandes de rencontres. Donc pour finir, si les enseignants accueillent avec bienveillance les conseils des parents d'enfants 10 sur les aménagements pédagogiques, et vice-versa évidemment, et si on arrive à une communication non conflictuelle et sans jugement, d'une part et d'autre, on pose les bases solides d'une collaboration porteuse pour l'enfant 10 et son parcours scolaire.
Donc, on donne la parole à Cédric.
Alors, sur cette question là, de la place de l'école dans la famille, la place de la famille dans l'école, moi je trouve qu'il y a une véritable schizophrénie absolue de l'institution. C'est-à-dire que d'un côté, l'institution plaide et revendique pour faire rentrer les parents dans l'école. Et d'un autre côté, on voit bien qu'il y a un véritable plan vigiparent qui se met en place, puisqu'il y a vraiment quelque chose qui tient de l'éloignement des familles le plus possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux de pouvoir véritablement dans une école. Il y a des enjeux de pouvoir sur qui possède le savoir et quelle forme de savoir. Bien souvent, on est sur une question du généraliste contre l'expert. L'expert étant le parent, en réalité. C'est-à-dire que l'enseignant est généraliste parce qu'il va avoir des connaissances sur un ensemble de données possibles. Par contre, le parent en face peut être un expert. Si on prend la question du handicap et des 10, Nathalie et Dorothée sont sans doute bien plus experts que moi, enseignant, je ne peux l'être sur cette question-là. Ça veut dire que si je fais rentrer des parents, je prends le risque, moi, d'être mis finalement dans une situation un petit peu compliquée puisque j'ai une perte de maîtrise absolue. Donc il y a déjà des enjeux de pouvoir qu'il faut clairement identifier et sur lesquels il faut pouvoir travailler. Et il y a pourtant un intérêt énorme à faire rentrer, à mon avis, les parents dans l'école. Et à les faire rentrer en réfléchissant bien à pourquoi est-ce qu'on les fait rentrer. Traditionnellement, l'école veut faire rentrer les parents, mais pour que les parents s'acclimatent à elle, s'acculturent même à elle, c'est-à-dire abandonnent leur culture pour s'imprégner de la culture de l'école. On peut aussi essayer de voir les choses dans l'autre sens en se demandant comment est-ce que chacun peut faire un pas vers l'autre et comment est-ce qu'une culture parentale peut venir mettre un pied dans l'école. C'est aussi intéressant de pouvoir montrer en acte comment les choses se passent dans l'école. proposer par exemple des classes ouvertes, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce que je fais parfois, ça peut avoir un intérêt, mais sachant aussi qu'il ne faut pas avoir la naïveté de penser qu'en faisant ça, parce qu'on fait des classes ouvertes, on va attirer l'ensemble des parents qui auraient besoin d'être dans la classe à ce moment-là. Donc il y a vraiment tout un tas de dispositifs qu'il va falloir penser, à mon sens. Et ça renvoie finalement aussi à la question de la relation. Tout à l'heure, en première partie, le mot effectivement « humanité » est ressorti pas mal. Et avoir des relations sereines sur une forme de pied d'égalité, même si on a des champs de compétences qui sont un tout petit peu différentes. Sauf que ça, c'est absolument pas des objets de formation chez les enseignants. L'apprentissage de la relation, à aucun moment, ne fait l'objet d'un apprentissage dans la formation initiale ou même continue des enseignants. Donc ça, c'est une véritable question, cette question-là. La question aussi des devoirs, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Les devoirs à la maison. Pourquoi est-ce qu'on donne des devoirs à la maison? Qu'est-ce qu'on fournit comme outil ou comme arme aux enfants pour pouvoir faire les devoirs à la maison? Est-ce que quand on fait ça, on n'est pas en train d'entretenir finalement, ou de légitimer même quelque part, une forme de reproduction des inégalités entre ceux qui posséderaient les codes de comment est-ce que je vais m'y prendre et ceux qui ne savent pas le faire? Il y a des études, c'est assez paradoxal, qui montrent que ce sont les familles d'enfants populaires qui passent le plus de temps sur les devoirs, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire. Donc ça interroge un petit peu. Et puis sur la question de la formation, moi, il y a un troisième point sur lequel je voulais insister parce qu'il me paraît intéressant, c'est la question de ce qu'on peut appeler les temps interstitiels. Tous les temps qui peuvent se trouver entre des temps d'apprentissage. Je donne un exemple qui va parler à tout le monde, je pense, les récréations. La récréation, c'est un impensé absolu de la formation initiale ou continue chez les enseignants. Et pourtant, c'est sans doute un déterminant très important sur des climats scolaires et du coup sur la réussite des enfants. La récréation, ça peut être un moment où on fait rentrer aussi les parents, les familles qu'ils peuvent. Et on les fait rentrer finalement sur des tiers objets. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des parents venant animer des ateliers pendant les récréations? C'est ce qui se fait dans mon école, ça veut dire que c'est possible quand même. Ils viennent sur un tiers objet. Ils ne viennent pas pour qu'on parle de leur enfant, parce que c'est toujours difficile. En général, quand on est invité à l'école, c'est jamais bon signe. Hein. C'est qu'il se passe quelque chose de plutôt négatif et qu'on va forcément être jugé en tant que parent. Pouvoir rentrer dans l'école sur des tiers objets, c'est-à-dire sur des choses qui ne concernent pas directement mon enfant, et dans des tiers espaces, c'est-à-dire pas nécessairement directement dans la classe, mais peut-être ailleurs dans la cour de récréation, sur un espace vert, sur un potager, peu importe. Ça peut permettre aussi de retisser du lien et de retravailler cette continuité éducative. Donc je pense que la question de la formation, elle est vraiment, 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 vraiment nécessaire parce qu'elle peut interroger ces questions de tiers objets et de tiers espaces.
Donc, on donne la parole à Nicolas.
Alors, pour compléter les propos de nos collègues, effectivement, je pense que nous, notre particularité peut-être dans le second degré, c'est d'avoir ces missions de conseillers principaux d'éducation et de réfléchir peut-être, d'être peut-être mieux formés sur ces questions et de réfléchir justement à ce que tu disais, Cédric, sur ces temps, ces interstices et travailler justement pour que la place des parents interviennent de façon plus régulière. Nous, dans le collège où je travaille, c'est une question centrale, vraiment. Et je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur d'abord un accueil très informel, c'est-à-dire que c'est une présence, on a parlé de ces histoires de grilles, etc. Eh bien, notre présence, elle va jusqu'aux abords. On peut aller rencontrer les familles. Vraiment, l'idée, c'est d'aller vers elles, puisque parfois, il est difficile qu'elles viennent vers nous. Et puis, plus on va leur donner de place, je pense, plus elles prendront la place. Et donc, tous ces temps que nous allons organiser, où nous allons convier les familles sur des temps conviviaux, moi, je pense beaucoup, on travaille beaucoup sur la valorisation des travaux, on a de nombreux projets, eh bien, les familles sont conviées très fréquemment pour, justement, voir leurs enfants valorisés. Et ça, c'est extrêmement important, parce que effectivement, si on ne les convoque, puisque c'est le mot, moi je ne convoque jamais une famille, je l'invite à venir. Je crois que déjà dans les termes, c'est quand même très, très, très précieux. Si on invite ces familles à venir sur ces temps de partage, de convivialité, où finalement nos rôles sont peut-être moins définis, où les échanges sont plus simples, et bien ensuite, ensuite, on a des possibilités justement de travail sur des questions plus problématiques, qu'elles soient scolaires ou comportementales. Hein. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur les élèves qui ont des difficultés aussi comportementales. Mais quand on a créé la relation, eh bien, après, on peut travailler plus en profondeur sur des questions plus sensibles avec les familles. Voilà, donc moi, je pense notamment, nous, on travaille beaucoup avec sur la liaison CM2-6e. Donc on va à la rencontre des familles dans les écoles, hein, en équipe, avec les chefs d'établissement, des enseignants. On va se présenter dans les écoles. Les familles sont conviées en amont. Les élèves de CM2 viennent régulièrement. Donc il y a une connaissance et des personnels et du fonctionnement d'établissement qui donne une fluidité ensuite dans les relations, une spontanéité. Les gens viennent vraiment parce qu'on leur a dit, mais voilà, vous avez une question, vous avez un souci, tout doit pouvoir se résoudre. Et je crois que à partir du moment déjà où on travaille cet accueil et où on donne du temps, de la disponibilité, je crois que derrière, hein, c'est ce que disaient Dorothée et Nathalie, derrière, ensuite, on pourra vraiment aborder des questions plus cruciales, hein, liées à la scolarité et plus sensibles, voilà, hein, qui souvent créent justement ces tensions. Voilà.
Oui, moi je vais compléter. La particularité me concernant par rapport à toi, donc moi je suis en lycée, donc déjà ce que disait, je crois que c'était Nathalie, sur le fait qu'effectivement, plus l'enfant grandit, évidemment moins le parent vient. Alors en lycée, en général, on le voit pas. Par défaut, le parent, c'est même plus dans la rue d'à côté, c'est voilà, le jeune vient tout seul. Et puis moi j'ai quand même cette particularité d'être en lycée de campagne, hein, zone rurale. Donc les parents, de toute façon, ils sont à 30 km ou à 60 parce qu'ils vont travailler. Donc c'est vraiment très compliqué de les avoir. Moi, je me suis rendu compte au bout de quelques années, en fait, de pratique dans cet établissement, que les seules occasions, effectivement, et je vais rejoindre aussi ce que tu disais, Cédric, où les parents, j'en entendais parler, en fait, dans cet établissement, c'est quand ça n'allait pas. Soit parce que moi ou mes collègues enseignants appelions les parents parce que ça ne va pas, soit à l'inverse, de la même façon, les parents ne se manifestaient que quand il y avait un problème. C'est-à-dire que, en fin de compte, les seuls contacts que nous avions, c'était « je ne suis pas d'accord avec telle retenue, je ne comprends pas, telle exclusion de cours, qu'est-ce qui s'est passé ?» Voilà, ça c'était les parents. Et je me suis dit « là, il y a quand même effectivement un problème ». Alors beaucoup de collègues, enseignants, CPE, etc., voient souvent d'un mauvais œil ça. Il y a l'idée que maintenant, les parents se permettent tout, ils remettent en cause l'autorité des enseignants, etc. Moi, je le vois d'une manière beaucoup plus positive. Hein. Pour moi, de toute façon, une famille qui se signale à l'école, au collège ou au lycée, c'est déjà un bon point. C'est quelqu'un qui, une famille qui a osé faire ce pas-là. Et puis, alors même si elle se signale sous la forme d'un malentendu, pour reprendre les propos de Dubé, etc., c'est pas grave, on va pouvoir le travailler du moment qu'on a cette posture d'accueil, comme tu dis, hein, de dialogue. Voilà, et c'est très bien que les familles se saisissent peut-être du droit, de tout ce qui va être textes officiels qui sont devenus accessibles pour questionner l'école et pour dire « mais là, mon enfant, est-ce que vous le traitez comme il doit être traité, en fin de compte ?» Parce que là, il y a une porte ouverte. Et alors bon, dans mon établissement, voilà, je me suis dit, on ne peut pas limiter effectivement la parole à ces temps-là. Et puis, on a une autre mission qui est peut-être celle, on est l'un des derniers services publics, hein, dans notre zone rurale. C'est simple, à part le lycée et le collège, dans ma ville, il n'y a absolument aucun service public. Il reste un petit bout de poste. Voilà, la poste, et c'est tout. Donc, on a aussi cette mission-là, moi, je trouve, et on a initié là des cafés des parents. L'idée, c'est vraiment effectivement d'inviter les parents à se rencontrer entre eux au sein du bâtiment. Je dis du bâtiment parce qu'en fin de compte, notre place de professionnel dans ces moments-là, moi, je me mets beaucoup en retrait. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que les parents viennent et se rencontrent entre eux, puisqu'ils habitent aussi tous très distants les uns des autres, hein, dans ma zone. Ils ne se connaissent pas et on crée un espace public où les portes sont ouvertes pour qu'ils puissent s'asseoir ensemble en tant que parents autour d'une table. Et puis ponctuellement avoir des professionnels qui vont leur répondre, mais vraiment de leur place, je dirais, d'expert. Le prochain Café des parents que j'organise, c'est sur les addictions, par exemple. Donc, on va faire venir quelqu'un sur les addictions. Et vous imaginez bien, dans ma zone rurale, que rencontrer à côté de chez soi un spécialiste sur les addictions, c'est pas simple pour les parents. Donc, c'est aussi cette notion-là de service public, moi, que j'ai envie de mettre en avant dans cet accueil des parents. C'est aussi, on est l'école, on n'est pas forcément obligé non plus tout le temps, effectivement, de parler, je te rejoins aussi, de l'enfant lui-même, leur enfant. On est là aussi pour proposer, voilà, un accueil, une zone où ils peuvent échanger entre eux et recevoir des informations au-delà de juste la situation de leur élève, à leur enfant, pardon, lapsus, à eux. Voilà, pour moi, ça, c'est important. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment travailler à cette ouverture dans ces zones, que ce soit des zones comme toi, en centre, enfin, pas en centre-ville, mais en ville, où c'est ouvrir, ouvrir les portes. Voilà.
Merci. À nouveau, hein, on voit bien ici dans ces échanges une dimension un peu plus critique aussi, institutionnelle, hein, donc au-delà de la première qui était plutôt sur la définition. Je reprends quelques mots avec des points de vue qui se complètent bien, parce qu'on a, voilà, on a ici voilà, l'éventail qui nous permet de mieux comprendre. J'ai entendu le mot pollution quand même, hein, pollution de l'espace de classe, mais pollution de la famille, hein, qui, par les devoirs par exemple, cet objet crée, hein, des tensions supplémentaires souvent. Le rejet, le dérangement, hein, la grille fermée, le vigiparent, hein, qui nous permet de mieux comprendre quels sont les enjeux de pouvoir aussi derrière. Et puis, voilà, des pistes pour améliorer, hein, tout de même, avec des dispositifs, le café des parents, des réflexions autour des temps interstitiels, la formation à la relation, qui, effectivement, n'est pas véritablement proposée dans le cadre de la formation des concours, hein, un peu. Valorisation de l'enfant, réflexion sur la notion d'accueil, hein, tous ces éléments qui peuvent permettre de mieux comprendre ces deux places-là. Alors, pour continuer, la troisième question que vous voyez derrière moi, hein, quelle est la place des enfants dans cette continuité? On va essayer de se centrer un petit peu sur eux dans cette dernière question. Comment est-ce qu'ils s'en saisissent pour une continuité plus ou moins réussie? Et Thomas et Stéphanie, tous les deux, vous voulez bien commencer?
Oui, peut-être je vais commencer de manière un peu plus, je dirais, plus provocatrice, en disant, en fait, on se demande, en fin de compte, si les enfants, eux, ça les intéresse réellement, cette continuité. Moi, je sais qu'en tant que CPE, quand j'ai... Enfin, les enfants, voilà, ils ont tendance à fuir ces rencontres parents-professeurs. On a tous ces souvenirs-là aussi. On ne veut pas forcément y être quand son parent va voir le professeur principal. De la même façon, en tant que CPE, voilà, dans l'entretien que je peux avoir quand je discute avec un parent et que son enfant est là, il y a plusieurs attitudes, mais très souvent, l'enfant se met en retrait. Il est pris, il y a des enjeux, hein, affectifs du côté de ses parents, des enjeux du côté du professionnel, donc moi le CPE. Et en fin de compte, on pourrait se demander si effectivement les enfants, ils y tiennent à cette continuité, là, celle qu'on est en train tous d'essayer de convaincre. Il faut faire du lien, mais peut-être que les enfants, eux, se disent que non. Mais en fait, je pense que c'est important à la fois que les enfants, même grands enfants, ça peut être jusqu'à lycéens comme moi, ils aient à la fois un temps qui n'est pas celui de la famille. Il ne s'agit pas de dire que la famille doit être omniprésente dans l'école. C'est aussi un espace qui leur appartient aux enfants, cette école. Et c'est très bien que le parent ne soit pas omniprésent. C'est aussi un moment où ils construisent leur vie, leur autonomie, hein, par rapport à la famille. Mais c'est aussi, à l'inverse, c'est aussi très bien quand... je vais prendre une anecdote, un exemple. Hein. Moi, je suis dans le lycée avec internat. La plupart de mes grands enfants, puisqu'il y en a qui sont majeurs, hein, donnent un coup de fil quotidien à leurs parents le soir. Et ils ont beau être des ados avec tout ce qu'ils peuvent avoir de caricatural, ils créent cette forme de continuité. Ils sont sur un temps particulier, hein, celui de l'internat, mais on sent bien que le lien, il doit exister, il est important pour eux. Donc voilà, je sais pas, moi je sais plus sous forme de question, hein, ce que je dis, mais comment effectivement concilier à la fois le besoin qu'ils ont d'autonomie et en même temps leur fournir une continuité qu'ils ressentent. Alors en collège, peut-être en plus, c'est plus fort encore.
Oui, alors pour nous, c'est, je pense que la question, ça va surtout être, parce qu'ils sont quand même à ce moment-là en construction et sans doute un peu plus sensibles, en tout cas à la cohérence qui va exister entre parents et école. Et donc, je crois qu'ils savent très bien, hein, ils ont déjà à ce moment-là très bien identifié si justement la continuité existe ou pas. Ils ne sont pas dupes, hein, d'ailleurs, parfois, hein, des partis pris des uns et des autres. Et je pense que à nous de faire en sorte que l'alliance s'effectue. Et je pense que ils ont une place, bien évidemment, hein, dans cette continuité. Et je pense que nous devons être très vigilants parce que parfois il existe aussi des conflits. Hein, vous l'avez dit, je veux dire, l'école est sujette quand même à conflits dans les familles. Il peut y avoir aussi conflits de loyauté chez ces enfants. Donc à nous aussi d'être à l'écoute de cela parce que des enfants qui vont finalement rentrer dans un cadre scolaire, répondre à des attendus, mais lorsque nous, par exemple, on reçoit parfois des familles, notamment les familles les plus défavorisées, parfois on s'aperçoit que des enfants sont presque gênés, hein, d'être en entretien avec ces familles très éloignées de l'école, etc. Donc à nous aussi de rassurer l'enfant, hein, sur voilà, la confiance qu'on a dans leurs parents et le fait que eh bien, chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Et je pense que nous, au collège, on travaille beaucoup sur le maillage avec le territoire et tous les partenaires aussi, pour que l'enfant, à la fois la continuité éducative existe entre l'école et la famille, mais aussi avec nos partenaires. On est un petit territoire, hein, en zone urbaine, mais où le maillage est très fort, donc avec le service jeunesse, avec le service culturel, avec une association de prévention. Et l'enfant, là, il trouve sa place au cœur de tout cela. Et ça résonne d'autant plus que tous ces professionnels, et finalement les parents, hein, étant eux-mêmes... je trouve à leur place de professionnels aussi, hein, chacun dans son expertise, eh bien, tous ces partenariats vont aussi faire que l'enfant est une place, mais plus globale que simplement l'élève, etc. Et moi, je trouve que c'est vraiment une plus-value. Alors, contrairement à Thomas, moi, je suis en zone urbaine, avec une proximité, et ça, les territoires, hein, jouent beaucoup, hein, là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est indéniable, hein. et vraiment ce travail de faire rentrer d'autres acteurs dans l'école et nous-mêmes d'en sortir et de faire tomber les barrières et de travailler aussi avec les partenaires permet vraiment à ce que l'enfant ait toute sa place dans cette continuité, et ça va vraiment apporter une vraie plus-value, moi je trouve, hein, à la place que l'enfant va trouver dans la continuité. Voilà.
Juste pour compléter, rebondir et terminer là-dessus, effectivement, ce que tu disais, moi j'ai un exemple de la semaine dernière, hein, je travaille sur un élève en situation de décrochage. Ses parents sont venus avec toutes les difficultés que ça représente pour eux, c'est-à-dire trouver quelqu'un pour les véhiculer parce que pas de permis, parce que le papa travaille la nuit, parce que, voilà, enfin, des situations, mais qui sont pas du tout rares, hein. Dans ma zone, c'est mon quotidien, hein, c'est ce type de famille. Qui n'a pas le permis, ou alors une voiture qui date d'il y a 25 ans et qui est en panne, et ben voilà, faut imaginer un petit peu ça. Et cette famille qui est venue n'a pas réussi à venir avec son enfant parce que la famille, et ça nous a été en fait soufflé par l'éducateur qui était là, la famille a un tout petit niveau, je dirais, et culturel et financier, etc. Et l'enfant, qui lui est très brillant malgré sa situation de décrochage, a honte en fait de ses parents, il a honte de la voiture de ses parents, il a honte de l'apparence vestimentaire de ses parents, parce que voilà. Donc là, quand on parle de continuité, quand je disais un peu avec provocation, est-ce que l'enfant il veut vraiment de cette continuité, il y a un grand défi. Enfin, c'est comment à cet enfant-là, cet élève-là, s'adresser pour dire mais si, on va travailler ensemble, il ne faut pas avoir honte. Et aussi, voilà, de la place des familles, comment dépasser cette chose terrible que son enfant ait honte de soi, parce qu'ils en ont conscience. Et donc on est sur ce genre de problématique. Et c'est pas des cas rares, hein. Enfin, c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister. Là-dessus. On a toujours l'impression que, voilà, mais c'est du quotidien dans notre métier. Hein. On part de très loin, je dirais, sur cette question. Parfois.
Nathalie
Dorothée.
Mm-hmm.
Donc, la place de l'enfant dans cette continuité éducative, évidemment, l'enfant, c'est le cœur du sujet qui nous anime, parents, enseignants. Ce que l'on voulait dire, c'est que l'enfant, ce n'est pas qu'un élève, il a une vie en dehors de la classe. Et connaître son environnement, ses contraintes, dans le cas d'un enfant souffrant de troubles des apprentissages, il a certainement toute une multitude de gens qui gravitent autour de lui, de la rééducation. Et donc que tout soit saucissonné autour de lui, étanche, ça peut poser problème pour lui. Et pour favoriser au mieux son apprentissage, il y a vraiment la nécessité de ce lien autour de lui, par exemple en acceptant les professionnels de la rééducation au sein de l'établissement scolaire. L'enfant, il doit sentir que tous les adultes qui l'entourent sont cohérents, qui vont tous dans le même sens, qu'il n'y a pas de jugement négatif des uns sur les autres et qu'il y a de la confiance entre eux. S'il n'y a pas cette cohérence entre adultes, il va se sentir, comme on disait tout à l'heure, entre deux feux et il ne peut pas avoir un appui stable pour avancer. Et c'est particulièrement vrai pour un enfant 10 qui doit se sentir vraiment soutenu par tous les adultes avec de telles difficultés. Alors, je vais citer deux exemples. Par exemple, les parents qui vont critiquer l'enseignant parce qu'il donne trop de devoirs, on y revient. Ça, c'est le meilleur moyen pour démobiliser l'enfant. Et puis, un enfant... Donc avec des résultats médiocres, qui est qualifié de paresseux à l'école alors qu'il travaille d'arrache-pied à la maison, ça arrive quand même régulièrement et c'est une catastrophe pour l'estime de soi et puis le sentiment d'injustice est énorme. Donc l'enfant, il doit se sentir compris et il doit se sentir acteur aussi. Donc en citant le cas du PAP, le plan d'accompagnement personnalisé qui liste tous les aménagements nécessaire pour l'accompagnement de l'enfant, c'est essentiel que l'enfant soit au centre des préoccupations. Il ne s'agit pas de partir des contraintes de l'adulte, mais bien du besoin de l'enfant. Par exemple, les photocopies des cours qui sont parfois un problème pour les enseignants, alors qu'elles sont indispensables à la maison parce que les prises de notes sont inexploitables, ou à contrario, des parents qui vont cocher toutes les croix du PAP pour blinder vraiment le sujet. Bon, au final, le PAP ne sera pas appliqué, parce que ce n'est pas raisonnable. Et donc, c'est totalement contre-productif. Bon, vraiment, donc, se centrer sur l'enfant. Et donc, s'il y a dialogue, si on parle vraiment des difficultés de l'enfant, le PAP sera beaucoup plus pertinent, efficace et ne sera pas considéré comme une formalité administrative un peu pesante. Et puis, donc, en grandissant, en fait, l'enfant, il peut être associé, au moins en partie, par exemple, aux réunions éducatives qui le concernent, ou par exemple à l'établissement du PAP, afin qu'il constate que tous les adultes qui sont autour de lui, ces adultes-là, ils marchent dans le même sens et ils se parlent. Souvent, c'est une découverte pour les enfants qui assistent à ce genre de réunion. De même, nous pensons qu'il a, même s'il n'y tient pas spécialement, il a toute sa place lors des réunions parents-professeurs. Et puis donc, surtout, lorsqu'il y a un point d'achoppement, il faut vraiment qu'il y ait un dialogue entre parents et enseignants sans que l'enfant ne fasse tampon entre les deux. C'est important de le libérer des tiraillements entre adultes pour qu'il puisse se consacrer pleinement à la tâche scolaire. Par exemple, s'il y a refus d'appliquer les aménagements, ce n'est pas à l'enfant que l'on va dire « j'en ai marre de faire des photocopies », mais on va essayer de trouver des solutions peut-être plus pratiques entre adultes. Donc mettre l'enfant au cœur de la continuité éducative, c'est aussi de la fierté pour lui, c'est de l'attention qu'on lui porte, c'est de la motivation, et puis c'est du soutien et certainement une clé pour qu'il réussisse.
Merci Cédric.
Alors, en préambule, j'expliquais que donc il peut y avoir continuité que s'il y a finalement deux champs bien distincts. Et ce qui réunirait ces deux champs, c'est un objet un petit peu particulier, ou comme ça, qui s'appelle l'enfant. Donc l'enfant pourrait être finalement l'objet principal de la continuité. La continuité, on pourrait la voir comme la tentative de faire un hologramme de cet enfant, un hologramme de compréhension en allumant le plus d'éclairage possible. L'éclairage des parents qui sont les premiers experts, l'éclairage d'autres spécialistes, des orthos, des médecins, des psychologues, etc., qui pourraient rentrer aussi dans l'école. Et puis l'éclairage de l'enseignant. Ce qui pourrait être un point de vue qui est intéressant et qui est défendable. On peut aussi penser que l'enfant, ça ne doit pas être l'objet de la continuité. mais que ça peut être l'auteur de la continuité. C'est pas tout à fait la même chose, en fait, de considérer que quelqu'un est un objet ou que quelqu'un est un auteur. C'est-à-dire qu'il a potentiellement et son mot à dire et la possibilité d'influencer sur le contenu et la forme de ce qui va se passer en termes de continuité. Alors, on n'a pas un temps indéfini, on pourrait donner beaucoup de pistes, mais des façons assez simples, finalement, de permettre à cet enfant de devenir auteur, c'est de l'interroger déjà lui-même sur qu'est-ce qu'on donne à voir à l'extérieur. Déjà, de ce qu'on fait à l'école, qu'est-ce qu'on peut montrer aux parents? Qu'est-ce qu'on donne à voir sur ce que tu as fait et sur comment tu l'as fait? Alors, il y a des techniques qui existent depuis très longtemps. On n'invente rien en pédagogie freinée en les faisant. Il y a par exemple les présentations. On va inviter les parents à des conférences d'enfants qui vont pouvoir donner à voir ce sur quoi ils ont travaillé et pourquoi pas soulever le capot du moteur pour expliquer comment ils ont fait pour préparer ces conférences-là. Ça permet de mettre en acte et en mots un petit peu la façon dont des choses peuvent se jouer à l'école. On peut aussi faire intervenir des parents à l'école pour faire le même type de présentation. Moi, j'ai une anecdote, j'en parlais ce midi, d'un enfant que j'avais récupéré quand il était en CM1. Donc cet enfant n'écrivait pas. Et quand il faisait des tentatives d'écriture, il n'était pas capable de scinder les mots. Vous voyez, il écrivait vraiment comme au Xe siècle, quand on n'avait pas encore inventé les espaces entre les mots, ce qui pose des difficultés quand même pour arriver à le comprendre. Et il écrivait vraiment véritablement très, 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 très peu. Cet enfant avait le même prénom que son père, qui avait le même prénom que son grand-père. Vous voyez un petit peu, il était installé dans une espèce de dynastie comme ça, où tout le monde avait un rapport extrêmement négatif à l'école. Donc lui aussi, forcément, parce que sinon, conflit de loyauté, et voilà. Et ce qu'il a débloqué, cet enfant-là, c'est que son papa vienne à l'école pour montrer aux enfants et apprendre aux enfants à démonter un moteur de tracteur. C'est-à-dire un objet qui n'a rien de scolaire. Absolument rien de scolaire. Enfin, j'ai bien cherché après dans les programmes s'il y avait des trucs sur les moteurs de tracteur, j'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, non, là, a priori, il n'y a vraiment rien de scolaire. Il n'empêche que parce que son papa s'est autorisé à rentrer dans l'école, parce que son papa a été valorisé à un moment dans l'école, lui a eu envie derrière d'écrire pour relater ce qui s'était passé et pouvoir le transmettre un petit peu. Et finalement, son entrée dans l'écriture, alors il n'y a rien eu de miraculeux, évidemment, il n'est pas devenu Marcel Proust du jour au lendemain, n'empêche qu'il s'est mis à écrire, qu'il a été demandeur de ça. Après, c'est lui qui a expliqué aux autres enfants des choses qu'il savait sur le potager, des choses qu'il savait sur l'histoire du village, que tout le monde ignorait, parce que c'est ce qui se passe souvent dans des villages comme le mien, où on est un petit peu en périphérie rouennaise, on est à la campagne et il n'y a pas un seul campagnard. C'est-à-dire, ce sont des villages dortoirs absolus, personne n'a de racines en réalité. Et lui, il en avait. Justement avec cette histoire de lignée qui était installée depuis très longtemps. Et le fait de pouvoir être valorisé, et le fait d'avoir créé du lien entre sa famille et l'école par des objets qui n'avaient rien de scolaire, mais n'empêche que ça se passait dans un lieu scolaire, ça lui a permis de se débloquer et d'écrire. Et à la fin du CM2, cet enfant écrivait, il faisait des erreurs d'orthographe lexicale, c'est sûr, des erreurs d'orthographe grammaticale sans doute, mais au moins il produisait des textes qui avaient une vraie cohérence et avec un niveau qui n'avait plus rien à voir avec ce qu'il avait avant. Donc c'est quand même intéressant de se dire que parfois il y a des choses qui peuvent se jouer et se nouer autour de l'histoire des parents par rapport à l'école, c'est-à-dire le rapport qu'eux-mêmes entretiennent à l'école. Voilà. Et que si on ne travaille pas ça, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, il y a un véritable conflit de loyauté qui s'installe. Lui, par exemple, ne s'autorisait pas à faire mieux que papa, qui était pas du tout scolaire, entre guillemets. Donc cette question-là, elle interroge véritablement. Voilà, comment est-ce qu'on peut prendre en compte l'affect des enfants, leur histoire, et faire en sorte que leur histoire devienne aussi l'histoire de l'école. Vous savez, c'était Hannah Arendt qui expliquait que l'école, ça sert à s'inscrire dans une culture. Hein, en réalité, l'école sert à ça. Mais on peut peut-être prolonger le truc en disant que ça doit aussi nous permettre d'écrire une histoire. On s'inscrit dans une histoire et on doit pouvoir continuer à écrire une histoire. Si on laisse cette possibilité-là avec les familles, de les faire rentrer et de faire rentrer leur culture et leur savoir-faire, même sur des objets qui a priori ne sont pas scolaires, on peut déclencher des choses du côté de l'école. Voilà, c'était une illustration de ce qui peut se faire. Parce que sinon, le risque, et je finis là-dessus parce que j'aime bien cette formule-là, c'est que, vous savez, on nous bassine beaucoup avec l'école de la confiance. C'est très bien que l'école de la confiance, c'est exactement comme les frics McCain. Hein. Plus on en parle, moins on en mange. Donc il faut vraiment se réinterroger sur... Allez, on en parle un petit peu moins. Par contre, on fait en sorte de montrer que pour de vrai, pas pour du beurre, on fait confiance à la culture, y compris familiale, en lui donnant la possibilité d'accéder un petit peu à l'école.
Merci à chacun pour ces présentations riches en exemples aussi qui permettent d'illustrer un peu plus cette idée-là.